Pour la parole de Dieu ce matin, on va faire un peu différent, on va la chanter. On va chanter le verset de base du message. Vous êtes d'accord avec ça? C'est dans le psaume 59 pour ceux qui prennent des notes. Pour la personne qui prend des notes, non, pour les personnes. Excusez-moi. Psaume 59, 17, 18, on va le chanter.
Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célèbre ta bonté. Oh, pour moi, une
Alléluia. Les musiciens et les choristes vont rester là. Ils ne bougeront pas jusqu'à la semaine prochaine. Non. Juste parce qu'on va le rechanter. Je l'aime. Vous savez, cette semaine, j'ai passé un tapis roulant. Vous savez, c'est quoi un tapis roulant? C'est à l'hôpital, c'est pas le tapis roulant à Vincent. Et j'en avais passé un en 2016, ils avaient l'opération, tout ça. Et le docteur a dit, ton tapis roulant est meilleur que celui de 2016, mais il dit, c'est surprenant, parce que d'habitude, c'est pas ça qui arrive après une opération.
Amen.
Il n'est pas supposé être meilleur. Fait qu'il dit, on le garde à l'hôpital. Mais non. Alléluia.
Amen.
Fait que le résultat était meilleur, tout ça. Vous savez ce qui m'est venu comme chant? Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car tu es mon Dieu tout bon, et ma haute retraite. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur que tu nous surprends toujours. On sait qu'on ne doit pas être étonné parce que tu fais de grandes choses, mais on est surpris que tu agis, que tu fais des miracles, que tu fais de grandes choses, que tu changes les temps et les circonstances. Tu viens nous étonner encore et encore. Et Seigneur, tu veux nous étonner encore ce matin. Alléluia. Et tu as commencé d'agir dans ce lieu. Et Seigneur, on veut que ton esprit continue de se révéler dans nos cœurs, Seigneur. Ta parole soit une révélation. On ne veut pas juste l'entendre. On veut la vivre. En ton nom, Jésus. On veut quitter ce lieu avec quelque chose de plus. On veut quitter ce lieu étant rempli de ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Rempli du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une honte retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, choriste, musicien, leader de chant. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Vous allez le savoir par cœur, hein? Si vous ne le saviez pas. C'est le but qu'on puisse apprendre la parole de Dieu par cœur. Vous savez, David a fait ce chant, ce psaume. Mais si on regarde le contexte de ce psaume, à ce qui précède le début de ce psaume, il dit « Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. » Ça n'allait pas tellement bien. Hein? Il parle dans ce psaume de personnes, d'hommes violents, de personnes qui médisent contre lui, qui disent des faussetés, qui s'en prennent à lui, qui même profèrent des malédictions contre David. Et lui termine en disant, « Et moi, je chanterai ta force. » Alléluia! Malgré les troubles, les difficultés, un refuge au jour de ma détresse. Alléluia! Le Seigneur est un refuge. Vous savez, des fois, on a une expression, on dit, « Oh, il ne l'a pas eu facile. » Mais dites-vous que David n'a pas eu facile. Ah, ça n'a pas été facile, mais Dieu a agi. Dieu était son refuge, sa haute retraite. Alléluia. Vous savez, on n'a pas d'autre choix, enfant de Dieu, ce matin, que de se réfugier en l'Éternel, que d'aller dans la présence du Seigneur, un refuge au jour de ma détresse, au jour de ma détresse. Tout être humain connaît le jour de la détresse. Tout être humain ici-bas ne passe pas à côté. Si vous ne l'avez pas connu, je vais vous annoncer, vous allez connaître un jour le jour de la détresse. Mais Dieu est un refuge au jour de ma détresse. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, « Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Notre seul refuge, et le mot « refuge » en grec ici, c'est « kataf yugo » qui veut dire « chercher la sécurité dans la fuite. Chercher la sécurité dans la fuite. On cherche à se mettre hors danger. On cherche à s'éloigner des choses de ce monde qui nous mettent en danger pour aller se réfugier dans l'Éternel. Alléluia! Parce que le jour de la détresse, on le connaît ou on va le connaître, mais le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut être notre sécurité. Amen! Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les choses dans ce monde, ce n'est pas ce qui nous entoure qui doit être notre sécurité, mais on doit fuir et aller se réfugier en l'Éternel, qui est notre sécurité. On ne réalise pas toujours le danger qui nous entoure. Satan veut détruire. Satan avait égorgé, la Bible dit, volé, écrasé, accusé, culpabilisé, dévoré, et plus encore. Et c'est ce qu'il fait aussi. C'est sa job, c'est son pasteur favori, de vouloir détruire. Et dans ce monde, et parfois même dans l'Église, j'ose espérer que non, Satan et les démons sont devenus comme un conte. C'est pas quelque chose de tellement réel, c'est fictif. C'est pour, comme dans le temps, on disait le bonhomme Satan. On faisait peur aux enfants. Hey, si tu rentres pas ou tu fais pas telle chose, le bonhomme Satan va venir. On faisait peur, mais on savait que c'était juste quelque chose d'inventé. Mais Satan est une réalité. L'ennemi est une réalité. C'est pas de la science-fiction, là. Il y a un danger réel qui nous entoure et tout ça. Mais ce qui n'est pas de la science-fiction non plus ce matin, c'est que l'Éternel est ici et qu'il est un refuge. Amen. Alléluia. Il dit notre seul refuge. Il n'y en a pas d'autre. Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée parce que Dieu a fait un serment et Dieu a fait une promesse. Et dans ces deux choses, il ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Et c'est ce qui nous donne l'espérance, c'est que Dieu a fait une alliance avec son peuple et tout ça, et qu'il a fait une promesse. Il est notre refuge. Il s'occupe de nous. Le voleur ne vient que pour dérober. Quand je regardais l'autre mot après, égorger. Dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Le Fils de Dieu est paru, Jésus, Dieu le Fils, nous dit 1 Jean 3, 8, afin de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et nous sommes en Jésus ce matin. Amen. Si vous avez accepté le Seigneur, si vous êtes né de nouveau, vous êtes sous la protection, vous pouvez vous réfugier dans le Seigneur ce matin. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai prié cette semaine pour savoir ce que Dieu voulait que je partage ce matin. Et ce qui revenait constamment, c'est refuge. Dieu veut qu'on réalise ce matin qu'il est notre refuge. Alléluia. Ou qu'on va se mettre à l'abri de tout ce qui peut arriver ici-bas. David a dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs richesses, ceux-là sur leurs biens, ceux-là sur leur réputation, ceux-là sur leur capacité, ceux-là sur leur propre force. Mais nous, nous invoquons l'Éternel. Eux, ils plient, ils tombent, mais nous, nous demeurons fermes. Alléluia, et nous restons debout. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur l'Éternel. On se réfugie dans l'Éternel. J'ai ajouté quelques mots tantôt au verset, hein, vous savez, en parlant de bien et tout ça. Mais il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est pas dans les richesses, c'est pas dans les amis, c'est pas dans la famille, c'est pas dans les choses autour. C'est pas dans nos propres capacités qu'on peut trouver notre sécurité. Parce que c'est une sécurité éphémère. Et toutes ces choses vont passer. Mais notre sécurité doit être en l'Éternel. Amen? On doit se réfugier en Dieu. Jérémie a dit, ma force est mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Nahum a dit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et ce jour qui est une réalité nous fait vivre l'autre réalité. Réalité, c'est la présence du Seigneur. Jésus est ici ce matin. Psaume 16, verset 1, « Car je cherche en toi mon refuge. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je cherche en toi mon refuge. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Tout notre être. Cœur, esprit, corps, connaît la sécurité et la paix et la joie du Seigneur lorsque Dieu est notre refuge. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'était ça le message ce matin? Vous êtes surpris, hein? On peut aller plus loin. La définition de refuge, c'est un lieu, un endroit où on va se placer justement pour être en sécurité, parce qu'on voit venir le danger et tout ça. Et si vous n'êtes pas dans le jour de la détresse, eh bien, il faut aussi se réfugier à l'Éternel. Amen? Pourquoi? Parce que justement, on sait qu'à l'horizon, la tempête s'en vient. Je ne sais pas, mais je ne veux pas être défaitiste ce matin. Je ne veux pas être alarmiste, tout ça. Mais quand vous voyez la rage arriver, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez des choses qui sont à l'extérieur, vous vous dépêchez, tout ça, puis vous allez vous réfugier dans votre maison. Parce que vous voyez la rage s'en venir. Mais laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, que Dieu nous a prévenus aussi, afin justement qu'on puisse se réfugier en lui, parce qu'il va y avoir le mauvais jour. Et c'est ce que Paul a dit aussi. « Oh, ne soyez pas inconsidérés, mais soyez sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Les jours sont mauvais. Il dit « Rachetez le temps, soyez remplis du Saint-Esprit. » Alléluia. Et on va se réfugier dans sa présence. Nathan l'a dit tantôt, a dit, on entend ces paroles régulièrement. Et on entend ces choses que je dis ce matin régulièrement dans la vie chrétienne. Puis il y a un piège, c'est qu'à un moment donné, ça devienne comme un cliché. Ça devienne quelque chose qu'on entend, puis qu'il n'y a plus tellement de réactions et d'effets dans nos vies, parce qu'on l'a entendu, on l'a entendu. Ça fait souvent qu'on entend ça, oui, Dieu est notre protecteur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, et tout ça. Et des fois, on s'habitue à ça. Et ça n'a plus tellement d'effet. Vous savez, j'ai habité dans ma jeunesse pas loin du fleuve Saint-Laurent. Ma grand-mère restait sur ce qu'on appelait la côte Patton, pas loin de la rue Saint-Laurent. Donc, on descendait souvent la petite côte Patton et tout ça pour aller voir notre grand-mère. Puis le fleuve, on le voyait constamment. Le fleuve était là, puis on n'y portait plus attention. Et aujourd'hui, quand j'étais en évaluation et tout ça, il y a des gens qui venaient de Montréal ou de l'extérieur qui payaient des prix exorbitants pour être proche du fleuve. Eux autres payaient des prix énormes pour être au bord du fleuve, mais nous autres, on ne le regardait même plus. Et ça arrive comme ça aussi dans la vie chrétienne. On ne voit plus la beauté du Seigneur. On ne voit plus les richesses et la grandeur de Dieu. Parce qu'on a été constamment dans ça. Comprenez-vous? On l'entend chaque semaine, on l'a entendu plusieurs fois. Et ce que Dieu veut faire ce matin, c'est pas juste qu'on l'entende, mais qu'on le vive. Qu'on vive cette réalité que Jésus est notre refuge et qu'on a besoin d'un refuge. On a besoin ce matin, vous, chacun d'entre vous, il n'y a personne ici qui est plus fort qu'un autre au point de vue spirituel et tout ça. Personne ne peut dire, la Bible dit que celui qui pense être debout, fasse attention. Fasse attention. Parce que la chute n'est pas loin. Donc, on voit l'horizon. On sait que l'ennemi cherche à dévorer. On sait qu'il va avoir un mauvais jour et tout ça. Et on doit prendre au sérieux la parole de Dieu et courir se réfugier. Prendre la fuite, mais à bonne place. Sauvez-vous pas ce matin. C'est pas ça que je veux dire. Mais prendre la fuite dans le Seigneur, dans sa présence. Vous savez où est Dieu ce matin? Amen. Donc, on peut se réfugier. En l'éternel. Amen, hein? Sortez pas, il y a le danger dehors. Et nous sommes appelés à s'approcher de Dieu. Auprès de toi, je cherche un refuge, a dit David. Alléluia. Il dit, Paul a dit, vous savez en quel temps nous sommes. On le sait en quel temps nous sommes. Vous le savez, hein? C'est pas les meilleurs temps. C'est des temps de grandes tentations, des grandes épreuves, que le monde nous fait planer sur nous toutes sortes de choses. C'est le temps ce matin de courir se réfugier en l'Éternel. Je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire. C'est le temps ce matin d'aller courir et vous réfugier en l'Éternel. Parce que Dieu veut nous protéger, Dieu veut garder, Dieu veut veiller sur nous. Cette parole qu'on a chantée tantôt, Dieu veut qu'elle soit vécue dans nos vies. Et moi, je chanterai ta force. Malgré les épreuves et les troubles que vivait David, pouvait dire, et moi, je vais continuer de chanter ta force. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô Dieu, Dieu tout bon, alléluia, c'est toi que je célébrerai, car tu es ma haute retraite. Dieu est tout bon. Il n'y a pas de mauvais, rien de mal. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas de ces choses. Dieu est tout bon. Et c'est pour ça qu'on peut se réfugier dans sa présence ce matin. Alléluia. J'ai été étonné cette semaine quand j'ai fait une recherche sur le mot refuge. J'ai trouvé que pour le mot français, il y a 10 mots hébreux pour le mot refuge. 10 mots hébreux qui se traduisent de différentes façons, dont refuge. Et 9 de ces mots se trouvent dans les psaumes et parlent d'un aspect particulier, si vous voulez, d'un refuge, l'Éternel comme refuge. Voyez, c'est important pour le peuple d'Israël, ça voulait dire beaucoup. Le refuge, un abri, une haute retraite, notre protecteur. Et nous allons regarder un peu ce matin, mais rapidement, mais il y a un autre mot qui ne se trouve pas dans les psaumes, qui se trouve au début de la parole de Dieu, c'est qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelait des villes de refuge. Qui a entendu parler de ça? Amen. Donc, je saute par-dessus. Non, non. Les villes de refuge servaient à quoi? Quand quoi? Quelqu'un avait tué? Volontairement? Involontairement. Lorsque quelqu'un avait tué quelqu'un involontairement, prenons pour acquis qu'il travaillait chez lui, puis qu'il y avait une hache, puis que le bout de la hache est parti, puis il a fendu le crâne de quelqu'un, et tout ça, c'est involontaire. Mais, dans ce temps-là, des membres proches de la famille avaient le droit de se venger et de reprendre le sang, de se venger du sang de leurs membres de la famille et de tuer la personne qui a tué cette personne. Et pour parer à ça, vu que c'est involontaire et tout ça, c'est un homicide involontaire, si on veut, Dieu a pourvu des villes de refuge. Il y en avait 6. Sur 48 des villes des Lévites, il y avait 6 villes qui étaient des villes de refuge. Et ils pouvaient s'en aller, fuir dans cette ville et demeurer dans cette ville sans craindre le vengeur du sang. Ils restaient là jusqu'à la mort du sacrificateur et ensuite ils pouvaient retourner. Mais cette image de ces villes de refuge nous parle de Jésus. Qu'on peut se réfugier en lui parce que nous sommes destinés au vengeur du sang. Nous étions destinés à la mort éternelle et c'était pas volontaire. Personne ici a hérité de la nature pécheresse volontairement. Vous l'avez hérité, c'est involontaire, ça vient d'Adam et Ève et tout ça, on a hérité. On aura beau dire, j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu venir dans ce monde, j'ai pas voulu naître et tout ça, et hériter de cette nature pécheresse, que tu le veuilles ou non, tu l'as. Tu l'as. Mais Dieu pourvu le refuge pour éviter le vengeur du sang, éviter de payer, qu'on meure éternellement, mais au contraire, qu'on puisse se réfugier en Jésus, qui nous donne le pardon des péchés. Amen. Hallelujah. Qui nous pardonne de toute iniquité. Oh, merci Seigneur. Un des mots hébreux pour refuge, ça se dit bien, c'est le mot kasha. Kasha. Va te cacher. Et il est traduit en psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est cacha, pardonné. » Pardonné. Couvrir. Abriter sous la protection. Revêtir. Alléluia. C'est ce que veut dire le mot. Être couvert. Se vêtir. Être pardonné. Se réfugier, si vous voulez, dans l'Éternel pour être couvert du sang de l'agneau. Amen. Le sang de Jésus nous préserve du vengeur du sang. Fait que ce matin, on peut se réfugier en l'Éternel pour être pardonné. Amen. C'est un refuge. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on tombe, lorsqu'on vit des choses, on peut aller se réfugier en l'Éternel. Le pardon du Seigneur, c'est un grand salut, c'est un grand pardon. Amen. Que tu aies commis un péché dans ta vie ou que tu aies tué 6 millions de personnes, c'est le même pardon. Si Adolf Hitler s'était repenti, il serait sauvé. Et envoyé plus de 6 millions de personnes à la mort. que tu aies été une bonne personne ou que tu aies été un meurtrier, c'est le même salut pour tous. Et si tu avais été la seule personne au monde qui aurait eu besoin du salut, Jésus serait mort pour toi. Alléluia. Donc, on peut se réfugier ce matin dans sa présence, dans son pardon, être couvert par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Première ville de refuge. On ne verra pas les six parce qu'on n'aura pas le temps, mais la première ville de refuge, c'était Kedesh. Kedesh, en Palestine, dans le territoire de Nephtali. Et Kedesh veut dire lieu saint, consacré, dédié, être sanctifié, séparé du mal. Et Nephtali veut dire victoire dans le combat. Enfin de Dieu, on peut se réfugier en l'Éternel, qui fait de nous des saints. Amen. Êtes-vous saints ce matin? S-O-I-N-T? Pas juste saints, point de vue S-O-I-N. Mais vous êtes saints en l'Éternel. Amen. Êtes-vous un pécheur? Vous êtes saints. On peut dire, oh, je suis pécheur. Si tu as accepté Christ, tu es saint. Tu es mis à part, consacré à l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. C'est pas de se croire supérieur aux autres. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Il faut dire ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Hein? C'est ce qui fait de nous des personnes mises à part, un peuple saint, séparé, consacré, une nation sainte. Pour l'Éternel, vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia! Merci, Seigneur. On peut se réfugier dans le Seigneur, qui nous couvre de sa justice, qui nous revêt du manteau de délivrance, qui veut transformer nos vies. Alléluia! Il est notre refuge. C'est pas juste le fait d'avoir été pardonné, c'est déjà beaucoup. Mais il y a plus que ça aussi, c'est que maintenant, on peut vivre une vie sainte. On peut marcher dans la sanctification à cause que Jésus est mort pour nous. Amen. Alléluia. Victoire dans le combat. On est des victorieux dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. S'il y en a ce matin ici qui se condamnent, qui se culpabilisent et qui ont de la difficulté dans leur vie chrétienne, simplement parce qu'ils ont commis certaines choses du passé ou dernièrement, ils n'arrivent pas à se pardonner dans un sens ou tout simplement vivre le pardon de Dieu. Puis ils se sentent toujours abattus et tout ça, écrasés avec des remords et j'ai fait différentes choses. Et Satan est l'accusateur. La Bible dit qu'il accuse les frères et les sœurs jour et nuit. Il est en train de nous accuser. L'ennemi est en train de nous accuser. L'ennemi veut qu'on vive sous la condamnation. L'ennemi veut qu'on se sente écrasé, parce que ça nous empêche de vivre l'abondance de Dieu. Ça nous garde dans la disette, ça nous rend stérile, ça nous empêche d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'on vit sous cette culpabilité. C'est son passe-temps favori, c'est d'accuser. C'est d'accuser. Et ce matin, une bonne raison de te réfugier en l'Éternel, c'est de vivre son pardon. Et c'est pas vivre sous cette condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Il n'y a aucune condamnation. Tu ne dois pas te sentir vivre cette culpabilité, sinon tu perds de l'action de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur est triste de ça, parce qu'il dit, mon enfant et tout ça vit sous un joug que j'ai pris à la croix. Je l'ai pris, ce joug. Tu peux quitter ce lieu libre. Alléluia. Amen. Tantôt, on va ouvrir les portes. On les a barrées d'alors. C'est-à-dire pouvoir repartir libre, libéré, alléluia, c'est quelque chose. Vous savez, avant, on vient dans le Seigneur, puis on vient avec nos anciennes habitudes. On avait des habitudes dans le temps, puis on a de la difficulté à croire que Dieu nous pardonne comme ça. Hein? Que si j'y demande pardon, ce matin, il me pardonne. Bien, il me semble que il faudrait peut-être que je dise 3-4, pardonne-moi. Ou 5-6, je t'en supplie. Ou 7-8, je ne recommencerai pas. Puis là, on regarde, oh, pardonne-moi, Seigneur, j'ai fait ça. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Oh, je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. On a remplacé les « Je vous salue, Marie », puis les « Notre Père » par « Je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi », des vaines redites. Le Seigneur a dit, ne multipliez pas de vaines paroles, de vaines redites, croyant comme les païens que vous allez être exaucés parce que vous allez prononcer 50 fois. Pardonne-moi. Que tu vas être plus pardonné si ça fait 100 fois que tu dis pardonne-moi. Il dit, ne multipliez pas de vaines redites et tout ça. Seigneur, pardonne. Amen. Alléluia. On vient au Seigneur simplement puis on croit sa parole. C'est un grand salut, c'est dur. Des fois, peut-être pour nous de comprendre que Dieu, un instant, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a fait, Dieu pardonne à l'instant. Donc, peu importe ce que tu as fait cette semaine, ou que tu as vécu, ou que tu as eu des colères, ou de l'emportement, ou quoi que ce soit, ou autre chose, tu peux quitter ce lieu, pardonner. Te réfugier à Kadesh, dans ce lieu saint que Dieu veut faire de ta vie, consacré au Seigneur, alléluia, il veut transformer ta vie et que tu ne vives pas sur les accusations, tu ne vives pas, Dieu a détruit, est venu pour détruire les œuvres du diable, lui détruire ses sentiments de culpabilité dans ta vie, et c'est ce que fait notre Dieu, alléluia, il y a une bonne tristesse dans le Seigneur, et je ne veux pas enlever cela ce matin, vous pensiez, la Bible dit qu'il y a une tristesse selon Dieu. Lorsqu'on pêche, il y a une bonne tristesse. Ce n'est pas de la condamnation que l'ennemi fait. C'est l'Esprit de Dieu qui parle dans nos cœurs qui est attristé. Mais cette tristesse nous pousse à nous réfugier en Jésus, dans sa grâce et dans son pardon, et de marcher dans la victoire du Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux déclarer ce matin, et je ne pense pas être hérétique, en disant cela, tous tes péchés sont pardonnés. Pensez-vous que je peux dire ça ce matin? Tous tes péchés sont pardonnés en Jésus. Si tu viens, tu te repens au Seigneur, je te dis, tous tes péchés sont pardonnés. Tu peux le déclarer, parce que Jésus l'a déclaré, et nous recevons son autorité. Amen. Il a dit à des personnes, tes péchés sont pardonnés. Et là, les pharisiens, tout ça, ils ont dit, « Ah, pas le droit de dire ça. Jésus avait le droit de dire ça. » Amen. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous avons reçu de la part du Seigneur cette autorité de pouvoir déclarer sa parole. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Oh, lorsque tu viens à Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. Et tu peux vivre maintenant une vie consacrée, une vie transformée, une vie de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Amen. La deuxième ville de refuge s'appelait Sichem. Il se réfugia à Sichem. Et à Sichem, c'est une ville qui était à l'extrémité d'une vallée, au milieu de la colline d'Éphraïm. D'un côté, le mont Ébal et de l'autre, le mont Gerizim. Donc, il y avait ces deux monts. Il y en a qui savent ce que veut dire le mont Ébal et Gerizim. D'un côté, on prononçait la bénédiction, de l'autre côté, on prononçait la malédiction. C'est ce que nous dit Deutéronome. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait rentrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gerizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc, Josué a obéi à ça. Et à cet endroit, d'un bord, on prononçait la bénédiction sur Israël. De l'autre bord, on prononçait la malédiction de la loi. Le peuple avait besoin d'entendre toute la parole. La bénédiction et la malédiction. Vous êtes là? Pas juste qu'est-ce que la chair veut entendre. Pas juste qu'est-ce que nos sentiments, nos vies veulent entendre. Mais on est ici ce matin, pourquoi? Pour entendre, même si ça fait mal. On se réfugie à Sichem. On se réfugie dans le Seigneur. Mais on veut toute la parole de Dieu. On se réfugie pourquoi? Parce qu'on veut tout entendre. Toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité. Dans le Seigneur, c'est ce qu'on veut entendre. Il y a la bénédiction, mais il y a la malédiction dans la parole de Dieu. La malédiction, si justement on s'éloigne, qu'on sort de cette protection du Seigneur, qu'on s'éloigne du refuge qui est notre Dieu et qu'on vit selon les choses de ce monde. On ne peut pas s'attendre à vivre toutes les bénédictions du Seigneur si on vit selon les principes de ce monde. Mais on se réfugie en l'Éternel ce matin. Amen. Alléluia. Pour moi, ma voix s'en va, hein? Et moi, je chanterai à ta force. Oh, merci, Seigneur. Tu viens d'hériter une autre récompense. Un verre d'eau en le nom du Seigneur. Sichem veut dire épaule. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il est le prince de la paix, conseiller admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel. La domination reposera sur son épaule. On va se réfugier où? En l'Éternel. Amen. Et on va se réfugier dans le nom du Seigneur. Nous possédons cette autorité. En Exode, il dit, le souverain sacrificateur Aaron rentrera dans la présence de Dieu avec les noms d'Israël sur ses épaules. Il est notre souverain sacrificateur et Jésus porte nos noms devant Dieu, devant le Père. Amen. On l'a entendu ce matin. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est notre souverain sacrificateur. On peut se réfugier en lui. Alléluia. Il a enlevé le joug sur nos épaules afin de faire reposer son nom sur nos épaules. Jésus porte nos noms là-haut. Amen. Pour qu'on porte son nom ici-bas. Nous portons le nom de Jésus. Nous avons l'autorité de Christ. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons l'autorité du Seigneur. Et la montagne d'Éphraïm veut dire doublement fécond. Nous sommes doublement bénis parce que nous sommes pardonnés des péchés, mais nous avons l'autorité de Christ de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia! On a toute la parole. On a toute la parole du Seigneur à notre disposition. Alléluia! S'il y en a ici que ça vous est déjà arrivé de passer à côté d'une aubaine, c'est-tu choquant? T'en vas au marché, tout ça, puis t'es concentré sur d'autres choses, puis à un moment donné, t'arrives, tu dis, « Ah! J'ai pas vu. Le beurre est en spécial. T'es à moitié prix. J'ai passé à côté de ça. Oh, j'aurais donc dû. » Et des fois, ça nous arrive dans la vie chrétienne. Je suis passé à côté de l'autorité de Christ. J'aurais donc dû. Pas passé à côté. Et qu'est-ce qui m'empêchait de vivre cette autorité? C'est que j'étais concentré ailleurs. Ma concentration était ailleurs. Mes pensées étaient ailleurs. Et ça m'empêchait de vivre l'autorité de Christ. Et le Seigneur veut qu'on puisse vivre cette autorité. On passe tellement à côté de toutes sortes de choses lorsque justement on ne vit pas cette autorité dans le Seigneur. On est concentré sur nous-mêmes. Et le fait d'être concentré sur nous-mêmes nous empêche de vivre l'autorité de Christ. Votre réfugié est Sichem. Votre réfugié sur les épaules du Seigneur. La domination repose sur ses épaules. Toutes choses sont sous son autorité. Rien n'est contre l'autorité. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Peu importe l'ennemi, tout ça, les millions de démons, tout ça, ne peuvent pas aller contre l'autorité de Christ. Et nous avons le privilège d'aller se réfugier dans cette autorité. Amen. Et de prendre l'autorité dans le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, dernièrement, j'ai assisté aux funérailles dans ma famille. Ma belle-sœur est décédée, tout ça. Enfin, j'ai vu la famille. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Mais j'ai été déçu et triste parce que il y a certains membres de la famille qui ne se parlent plus, qui passent à côté, qui ne se regardent pas et tout ça. Puis j'ai été déçu et triste de ça. Mais le Seigneur m'a parlé, en m'en allant et tout ça, que c'est quelque chose d'être déçu et triste, mais ça ne suffit pas. Je t'ai donné le ministère de la réconciliation. Je t'ai donné le ministère de la réconciliation. Tu dois être un réconciliateur. Tu dois faire l'œuvre d'un réconciliateur. Nous avons cette autorité d'enseignant. Oui, d'amener les gens à Dieu pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu, mais aussi d'apporter la paix autour. Pas juste d'être déçu que des gens sont en conflit. Je te prie, il va dire, c'est une tiche qui ne s'accorde plus. Je te dis de les aider, pas à saillir encore plus. Je te prie de les aider à s'accorder ensemble, à marcher ensemble, d'être unis ensemble, parce qu'il est notre prince de la paix. il ne donne pas comme le monde donne. Il donne comme surnaturellement la paix du Seigneur. Et nous sommes des faiseurs de paix, des réconciliateurs. Nous devons dégager la bonne odeur de Christ et cette odeur de paix. On ne prend pas part au conflit. On ne s'interpose pas dans les conflits pour prendre parti pour un bord ou l'autre. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Que ce soit dans l'Église, dans la famille, que ce soit au travail, tout ça. Vous n'êtes pas là et je ne suis pas là pour prendre parti. Je suis là pour apporter la paix. La paix du Seigneur, comme Jésus a fait avec ses deux frères, un qui ne voulait pas partager son héritage. Oh! Je suis venu pour partager votre héritage. Je ne suis pas là pour ça. Mais soyez en paix. Soyez en paix. Pardonnez-vous les uns aux autres. C'est notre mandat, ça. C'est ce que Dieu nous appelle. On n'est pas là pour être des faiseurs de troubles. On est là pour être des faiseurs de paix, pour apporter la paix, pour que les gens soient réconciliés ensemble. Qu'ils puissent vivre cette paix du Seigneur. Paul a dit, j'ai pardonné, pourquoi? Pourquoi je pardonne? Pour ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Les Corinthiens avaient des troubles, ils disent, pardonnez, ils ont pardonné, ils disent, je pardonne aussi, tout ça, afin de ne pas laisser l'avantage à l'adversaire. Vous êtes et je suis un réconciliateur. Si je vous bande les yeux ce matin, puis j'apporte des choses à votre nez, puis je vous fais sentir, vous allez être en mesure probablement de découvrir c'est quoi. Hein, si je vous mets un lilas, hein? Non, vous allez dire c'est du lilas ou un fruit, quelque chose. Si je vous mets une eau sulfureuse, ça pue, ou de l'essence, hein? Par la senteur, vous allez savoir ce que c'est. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Les gens nous sentent. Et on ne doit pas puer. On ne doit pas puer la chair. On ne doit pas puer à cause des conflits, des choses, qu'on s'interpose dans des choses. Ah, t'as raison d'être en toi. T'as raison d'être frustré. T'as raison. Ah, quand je vais le voir, je vais lui dire la façon de penser. Il t'a fait des choses. T'aurais pas dû te faire ça. Oh, tu parles d'un sans-cœur. Puis là, on commence. C'est pas ton mandat. C'est pas la bonne odeur de Christ, ça. La bonne odeur de Christ, vous savez, c'est quoi? C'est de dire à cette personne de pardonner. Je savais que je n'entendrais pas d'amen là-dessus. Mais il y a des choses qui sont impardonnables. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impardonnable? Non. Tout est pardonnable. Et nous, c'est la bonne odeur de Christ. Alléluia. Je ne laisse pas l'avantage à l'ennemi. Je pardonne et j'apporte ce pardon aux autres et je leur demande aussi d'agir. Dans ce sens, je veux réconcilier les gens. S'ils sont en trouble, je vais les aider. Je vais aller voir un et l'autre et tout ça. S'ils demandent de l'aide et essayer de réconcilier les gens ensemble, en autant que ça dépend de nous. La Bible dit, soyez en paix envers tous, en autant que ça dépend de toi. Si les gens ne veulent pas être en paix, bien, on ne peut plus faire grand-chose. Mais on reste en paix avec. Puis on essaie de réconcilier. Amen. C'est l'autorité qu'on a reçue dans le Seigneur. L'avez-vous reçu, cette autorité? Vous êtes un réconciliateur, je suis un réconciliateur, et nous avons tous reçu un ministère. Vous cherchez un ministère? Ben, vous l'avez. Ministère de la réconciliation. La Bible dit, et nous l'avons, ce ministère, de réconcilier les gens. Et premièrement, l'autorité, enfant de Dieu, commence sur nous-mêmes. Vous avez l'autorité de prendre autorité sur vous-même. Oh! C'était juste pour pas vous endormir. Quand ma voix baisse, j'ai dit, elle va devenir comme un son doux. Puis vous allez commencer à dire, oh, fais de dos. De temps en temps, il faut cogner comme ça. Et vu que je ne peux plus élever la voix tellement, il faut que je cogne quelque part. L'autorité sur vous-même, sur la chair. Et tout ça, vous pouvez prendre autorité sur vous-même. Amen. Alléluia, c'est là que ça commence. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi? Espère à l'Éternel, car je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme? Il parle à son âme. Le psalmiste parle à son âme. Pourquoi tu t'abats? Hey, c'est quoi tu fais là? Pourquoi tu commences à te décourager et t'abattre et manquer d'espérance, tout ça? Oh, espère à l'Éternel, loue-le encore. Alléluia. Et on lui donne des armes. Parce qu'on a l'autorité dans le nom du Seigneur sur nos propres vies. Alléluia, et de louer le Seigneur. Et il y a une autre ville qui s'appelle Hébron, et on va terminer avec celle-là, il y en a six, donc on va en voir trois ce matin. Et Hébron veut dire attachement, alliance, communion. Et c'est dans le pays de Juda, dans la région de Juda, et c'est Juda veut dire louange. Alléluia. On va se réfugier en l'Éternel, pourquoi? Pour approfondir notre relation avec Dieu. Pour s'attacher à l'Éternel. Alléluia. Pour s'attacher à Dieu. Et on va se réfugier dans sa présence. Alléluia. Et ça amène de la louange. Parce que de plus en plus qu'on s'attache à Dieu, son amour grandit à nous et ça développe l'adoration dans nos cœurs. Parce qu'on connaît de plus en plus notre Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous connaissez ça? C'est le verset de base de l'union du mariage et tout ça que Paul a associé à l'Église. Comme il est dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, deviendra une seule chair. Comme Christ a aimé l'Église. L'homme quittera son père et sa mère. Et Dieu veut qu'on quitte les choses de ce monde. Pourquoi? Pour s'attacher et devenir une seule chair. Unie avec le Seigneur. Alléluia. Être en communion avec Dieu. Être attaché à Dieu. Et c'est à Hébron qu'Abraham a construit des autels. C'est à Hébron qu'il a bâti cette relation avec Dieu et qu'il a reçu des révélations. Et c'est ce que Dieu nous appelle aussi, d'approfondir notre relation avec Dieu. Vous savez que Hébron, c'est l'une des cités les plus anciennes en Canaan. Et notre relation avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Au début de la création, Dieu a créé l'homme pourquoi? Pour être en relation avec l'homme. Uni avec sa créature. Et faire un, si vous voulez, avec sa créature. C'est ça la base. C'est ça que Dieu veut. C'est ça le plan de Dieu. C'est que toi et moi soyons unis. On soit un avec le Seigneur. Quitter pour s'attacher. Quitter pour s'attacher au Seigneur. Et ce que Dieu nous appelle. Vous savez, les dons spirituels, l'adoration, l'Église, les révélations, la louange, les actions de grâce, la puissance du Saint-Esprit sont toujours quelque chose d'incompréhensible pour celui qui ne s'attache pas à Dieu. Ce sera toujours quelque chose de secondaire, pas trop important, quelque chose, une activité comme une autre, et comme ci, et tout ça, pas trop d'importance tant qu'on ne s'attache pas à Dieu. Plus qu'on s'attache à Dieu, plus ces choses nous sont révélées dans notre cœur. Ah, moi, je comprends pas ça, tel frère, telle sœur, des révélations. Il reçoit de Dieu. Il a toujours un sourire d'en face. Et même s'il y a des difficultés, il trouve le moyen de citer des passages et tout ça. Et moi, je me sens loin de ça. Je sens pas la présence de Dieu. Je sens pas les révélations. J'ai pas cette joie à l'intérieur. Comment va ton temps avec le Seigneur? Hein? C'est quoi tu dis? Comment va ton temps avec le Seigneur? Quel temps? Fallait que je passe du temps avec le Seigneur? Pose-toi pas de questions. Pose-toi pas de questions. C'est dans la présence de Dieu que grandissent ces choses. C'est en s'attachant au Seigneur, en étant en communion avec Dieu. On a le privilège, enfant de Dieu, de s'approcher de Dieu. C'est ce privilège. Avant, on était séparés de Dieu. Maintenant, on est avec le Seigneur. On a le privilège ce matin de se réfugier dans le Seigneur. On a le choix. Je voudrais bien vous prêcher la facilité et vous dire que c'est pas nécessaire, que je comprends ta situation, que tu es quelqu'un d'important dans la vie et que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as des activités. Ah, tu as la famille, tu as le travail, tout ça. Dieu comprend tout ça. Dieu est bon! Dieu est bon. Même si tu ne passes pas de temps avec, il te comprend. J'aimerais peut-être vous dire ça, mais je ne le ferai pas. Pourquoi je ne le ferai pas? Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et Dieu voulait entendre ce matin, peut-être ce n'est pas facile des fois à l'oreille, mais ce que vous êtes venu entendre ici, c'est la vérité. Ce n'est pas ce qui est agréable aux oreilles. Tu peux repartir et faire tout ce que tu as envie comme tu veux. Dieu t'aime pareil, puis tu es correct. C'est pas ce que tu veux entendre. Ou c'est pas ce que l'esprit à l'intérieur veut entendre. La chair veut l'entendre, mais pas ton esprit à l'intérieur. Et on va continuer de prêcher la vérité. Amen. Faites tous vos efforts
La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est pas écrit, il s'approchera de vous, puis approchez-vous de lui après. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Résistez au diable. Fuyez les choses de ce monde. C'est ce que la Bible nous dit. Rachetez le temps. Ne soyez pas inconsidérés. Prends du temps. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Tu as l'opportunité maintenant de t'approcher de Dieu. Tu as le sang qui te couvre. Tu peux venir dans sa présence, obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans tes besoins. Prends le temps. Et on défonce des charges sur l'Église. Prie pour moi. C'est correct, on va prier pour toi. Mais prier pour toi ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de prier. Je suis correct, l'Église prie pour moi. Mais ça n'augmente pas ton attachement au Seigneur, ça. Ça n'augmente pas la révélation, ce que Dieu veut faire avec toi dans ta vie. Il est notre seul refuge. Alléluia. On veut voir la gloire de Dieu dans nos vies, tout ça. Et on doit s'approcher du Seigneur. Alléluia. Dieu veut faire son œuvre en nous. Amen. Et on doit prendre le temps. C'est notre responsabilité. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. C'est pas écrit si tu pries. Mais si tu pries, mais quand tu pries, c'est quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Il te le rendra. Il te récompensera. Il te rémunérera. Il agira en ta faveur. Il te le rendra. Il te le rendra. Vous n'êtes pas perdant. Parce que Dieu est tout puissant. Il intervient en ta faveur. Alléluia. Quand tu pries, il te le rendra. Quand tu pries, on peut entendre des choses ce matin, on dit c'est bon, c'est ça, prier. Mais comment va ton temps avec le Seigneur? Ta méditation, ton temps d'action de grâce, ton temps avec la parole de Dieu. Est-ce que tu pries, tu lis chaque jour? Oh, on revient à des choses de base de la vie chrétienne. Ah, j'ai entendu ça tellement souvent. Oui! Mais pose-toi pas de questions. Si tu es toujours abattu, amorphe, amer, colérique, que tu vois pas t'as pas de révélation, pose-toi pas de questions. Parce que Dieu t'a donné de te réfugier en lui et de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Il est temps, j'arrête. Mais il te le rendra. Hein? Les trois autres après-midi. Psaume 34, verset 9, et je termine. Santé, voyez combien l'Éternel est. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Ah, je peux pas vous laisser partir. Quoi qu'il est midi moins 25, mais je peux pas vous laisser partir, mais si vous voulez partir. Mais, qu'on puisse se réfugier en l'Éternel. Amen. Prendre un temps d'aller se réfugier en Dieu. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Heureux celui qui cherche en lui un refuge. Est-ce que ce matin vous vivez un jour de détresse? Vous ne vivez pas le jour de détresse? Ben, c'est le temps de vous réfugier. Parce que si vous regardez à l'horizon, la tempête s'en vient, il y a des vents qui s'en viennent, des tumultes et tout ça, et on a besoin de se réfugier en l'Éternel. Si tu es dans la détresse, c'est le temps, mais c'est encore plus le temps si tu n'es pas dans la détresse. Parce que tu sais que le mauvais jour va arriver. Tu vois, mon frère, tu t'es approché pour te réfugier dans le Seigneur ou tu avais quelque chose à dire?
C'est ça. Réconciliation. J'avais un petit témoignage.